C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le succès des classes dédoublées en CP et CE1. Premier bilan aujourd'hui de cette mesure phare du gouvernement en matière d'éducation. À suivre le témoignage d'une enseignante conquise. Une caméra pour mettre fin aux controverses. Les policiers et gendarmes équipés de lanceurs de balles de défense. Ils auront bientôt un système vidéo également pour les prochaines manifestations. Réaction d'un syndicat de policiers. Dans ce journal, nouvel épisode neigeux en cours, notamment dans le nord de la France. Plus de 10 cm relevés dans la région de Lille. Au menu également, le shutdown américain qui impacte les céréaliers français et une grande voix du barreau, Éric Dupond-Moretti, qui monte pour la première fois sur les planches.
Et une autre grande voix dans le studio de France Inter dans une vingtaine de minutes, c'est Mathieu Chédid pour son nouvel album L'Être Infini, qui est l'invité de Léa Salamé à 7h50.
France Inter.
Et le premier bilan aujourd'hui, Sébastien, du dédoublement des CP et CE1 en zone prioritaire.
Oui, c'était la grande mesure d'Emmanuel Macron en matière d'éducation, des effectifs à 12 élèves maximum dans les petites classes pour consolider les apprentissages. 190 000 élèves concernés, tous dans des quartiers sensibles. Résultat, après un an et demi d'application sur le terrain, le ministère de l'Éducation nationale va présenter ce matin un premier point d'étape, bulletin satisfaisant avec les encouragements. Écoutez, cette enseignante très enthousiaste, Mélanie Salson, travaille à l'école Jacques Prévert de Corbeil-Essonne.
C'est un privilège, le CP dédoublé, dans le sens où l'enseignant a quand même beaucoup plus de temps à consacrer à chaque enfant. C'est une pédagogie individualisée, presque, je dirais. Ça nous permet de résoudre beaucoup de difficultés. Pas toutes, c'est pas non plus miraculeux, mais on va dire qu'aucun enfant n'est à la marge, aucun enfant ne reste sur le carreau. Tous les enfants sont dans une position de réussite. Mes élèves qui sont maintenant en CE1 cette année ont gardé toute cette autonomie, et ça c'est quand même un luxe pour travailler quand on est à l'école. Et puis je vois bien que tout cet apprentissage de la lecture qu'ils ont eu l'année dernière, aujourd'hui ça leur permet de mieux comprendre des textes, parce que maintenant qu'ils ont bien appris à décoder, maintenant ils passent sur de la compréhension. Donc c'est vrai que pour eux c'est quand même une chance. C'est une très bonne chose, une très bonne mesure qui a été mise en place.
Mélanie Salson, micro de Sonia Princet, spécialiste éducation à France Inter. Quelques points noirs toutefois, comme le manque d'autonomie de certains élèves, c'est à lire sur franceinter.fr, ou en matière de logistique, manque de locaux en Seine-Saint-Denis, ou même chose à Marseille, où les effectifs n'ont pas pu descendre en dessous de 15 élèves par classe. Des couches pour bébés potentiellement toxiques, c'est la conclusion d'une enquête inquiétante de l'Agence de sécurité sanitaire. On a retrouvé des traces de parfums, de dioxine, de pesticides. Pas de danger grave toutefois et immédiat, ce sera l'ouverture du journal de 8h.
7h33, le gouvernement joue la transparence sur les lanceurs de balles de défense.
Ces armes non létales font polémique depuis des jours, accusées d'être responsables de plusieurs blessés graves dans les manifestations de gilets jaunes. Hier, le ministre de l'Intérieur a promis que les utilisateurs de ces armes seraient équipés de caméras piétons dès samedi prochain. Pourquoi pas, répondent les syndicats de policiers, mais il faut une réflexion plus globale sur d'autres dispositifs. C'est l'avis notamment du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Christophe Rouget, le secrétaire général adjoint.
Je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Les policiers ont un seul objectif, qui est le moins de blessés possible. Donc si cette utilisation est possible, parce qu'il va y avoir des contraintes techniques, par exemple, lorsqu'on maintient l'ordre, on est équipé avec un bouclier, on voit bien qu'on ne pourra pas mettre la caméra. Comme c'est le cas habituellement, les caméras piétons sont portées sur le torse, ça va être compliqué. On va avoir des problèmes quand on sera dans le cadre d'une intervention violente, on n'aura peut-être pas le temps d'enclencher la caméra. Il faut faire une expérimentation technique, en tirer des conclusions pour l'avenir. Il faut réfléchir au maintien de l'ordre. Notre problème, c'est que pendant 30 ans, on n'a pas réfléchi à l'évolution du maintien de l'ordre. Les ministres se sont succédés et personne n'a rien fait. Je crois qu'il est temps qu'on ait cette réflexion pour le long terme. On a vu par exemple que les lanceurs d'eau, qui sont largement plus utilisés dans d'autres pays, ont été sous-dimensionnés. Et ils ont montré leur efficacité avec moins de blessés parmi les manifestants, moins de blessés parmi les forces de l'ordre.
Christophe Rouget au téléphone avec Sarah Guibaudot. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs évalué à seulement 4 le nombre de personnes gravement blessées à l'œil par des lanceurs de balles de défense, alors que plusieurs comptes, des comptes indépendants, notamment de journalistes, évoquent des chiffres 4 fois supérieurs. Emmanuel Macron, lui, a changé de programme gilet Gilets jaunes. Il devait participer à un grand débat en Ile-de-France. Ce sera finalement demain en petit comité dans la Drôme, un déjeuner avec une soixantaine d'élus, avec autour de la table notamment le président des LR, Laurent Wauquiez. Parmi les sujets en débat, c'est la fiscalité qui semble la priorité des Français. Alors, arrêtons-nous un instant ce matin sur l'une des mesures qui remonte du terrain, créer une tranche d'impôt supplémentaire au-delà de 45%, idée défendue par certains députés d'En Marche et même certains membres du gouvernement. Alors, est-ce possible? Combien cette nouvelle tranche rapporterait-elle? Les clés pour comprendre le grand débat, c'est avec Hélène Filly.
L'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Il y a eu jusqu'à 14 tranches, il y en a 5 aujourd'hui, car au fil des années, les politiques n'ont cessé de vouloir les simplifier, alléger par le bas pour qu'ils soient moins abrupts pour les plus modestes et alourdir par le haut pour les plus riches. Exemple, sous François Hollande, une tranche à 45% est créée pour les revenus supérieurs à 150 000 euros. Ça représente 63 000 foyers fiscaux en 2015 pour un gain de 9 milliards 200 millions d'euros. Où placer la barre si l'on crée une nouvelle tranche? Il existe encore une surtaxe de 3% pour les revenus au-dessus de 250 000 euros et on se rappelle de la polémique et du recul sur la taxe à 75%. La différence aujourd'hui, c'est aussi que les revenus des placements financiers ne sont plus intégrés au barème de l'impôt, mais tous taxés de la même manière à 30%. C'est la flat tax d'Emmanuel Macron et cela veut dire qu'en rajoutant une nouvelle tranche, on ne toucherait que les salariés les plus aisés, pas les contribuables qui se sont enrichis grâce à leurs placements, parmi les plus grosses fortunes, finalement.
Hélène Filly du service économique de France Inter. Quand le shutdown américain a des effets secondaires jusque dans nos fermes françaises, la paralysie partielle de l'administration de Washington affecte notamment le ministère américain de l'agriculture. Il publie chaque mois des statistiques essentielles pour calculer les cours mondiaux des céréales. Or, depuis un mois, il n'y a plus de statistiques. Le marché des céréales est donc anormal. Calme, les agriculteurs craignent un ajustement en France brutal quand le shutdown prendra fin. Les explications de Manuel Ruffez.
Nous sommes sur un bateau sans boussole, raconte Michel Portier, le patron d'Agritel, spécialiste des marchés agricoles. Il faut dire que ces statistiques américaines, qui font l'état des lieux pour tous les pays du monde des stocks, consommation et exportation des matières premières agricoles, représentent le référentiel mondial le plus utilisé. Michel Portier.
Comme les traders n'aiment pas l'incertitude et que les prix sont faits à partir d'un bilan, les prix ne bougent pas. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Dès l'instant où les fonctionnaires de l'agriculture aux États-Unis vont reprendre leur travail, on est certain d'avoir des surprises. Mais des surprises dans quel sens? C'est le flou.
C'est une bombe à retardement, dit même Michel Portier. Surtout que ce sont les chiffres du marché américain qui manquent aujourd'hui et qui sont déterminants.
Ce sont les États-Unis qui détiennent la majorité des stocks de blé pour alimenter le marché entre aujourd'hui janvier et la prochaine récolte au mois de juillet. Donc il serait extrêmement intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qu'ils exportent, combien ils ont de stock, et on ne le sait pas.
Agritel conseille donc à ses clients, vendeurs ou acheteurs, de s'assurer les uns contre une violente chute des cours, les autres, au contraire, contre une hausse fulgurante.
Manuel Ruffez, et puis autre conséquence inattendue du shutdown, le FBI n'a plus les moyens de payer ses informateurs sur le terrain. Le Sénat américain doit de nouveau tenter demain de voter pour mettre fin à cette paralysie la plus longue de l'histoire. En bref, toujours à l'étranger, le pape s'apprête à prendre l'avion pour le Panama, un petit pays de 4 millions d'habitants qui s'apprête à accueillir les JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse. Au total, 200 000 jeunes catholiques de 150 pays différents. Le pape François atterrira en fin d'après-midi. Première sanction pour le PSG dans l'affaire du fichage ethnique. La commission de discipline de la Ligue a condamné hier le club parisien à une amende de 100 000 euros. Le club qui n'a pas fait usage de ses fiches, explique la Ligue, qui vise des maladresses individuelles et une négligence collective. Le PSG qui reste aussi sous la menace de sanctions plus lourdes. Le club est sous le coup d'une enquête préliminaire. Le coup de fatigue de Karl Lagerfeld. Il a été absent hier des deux défilés Chanel. C'est très inhabituel pour cette star de la mode.
Et à 7h39, on termine avec une autre star moins fatiguée.
Oui, une star du barreau, Éric Dupond-Moretti, qui est monté hier soir sur les planches. Il joue à guichet fermé pendant un mois à Paris. Un one-man show entre souvenirs et réflexions personnelles. Corinne Audouin a assisté c'était la première.
Il entre sur scène, accroche sa robe noire à un porte-manteau, puis s'adresse au public façon one-man show. Éric Dupond-Moretti raconte son enfance, sa vocation. « Je suis devenu avocat pour plaire aux filles », dit-il un brin potache. Il fait revivre son maître, l'avocat toulousain Alain Furbury, qui lui a pris l'irrévérence, confie quelques trucs de plaideur, ses tiroirs, des phrases toutes faites, utiles pour les transitions. Conquise, la salle applaudit tout, même l'idée que non, l'avocat n'est pas là pour faire triompher la vérité, mais celle de son client. Dans le public, son confrère Christian Saint-Palais salue la performance.
C'est un garçon qui sait convaincre sur les valeurs essentielles de la justice. Et ça, je lui suis très reconnaissant. Il livre quand même un extrait de sa plaidoirie pour Abdelkader Merah. Écoutez, c'est pas gagné, dans un théâtre parisien, d'imposer que le doute doit profiter à celui qui est accusé, même des pires crimes. Et ça, c'est la force d'Éric Dupond-Moretti.
Dommage que l'avocat s'égare parfois dans des réflexions plutôt banales sur les méfaits des réseaux sociaux, des chaînes tout info ou des féministes qui empêcheraient de draguer en boîte de nuit. Le spectacle mérite d'être rodé, débarrassé de ses facilités d'écriture pour gagner en rythme et en intensité.
Éric Dupond-Moretti à la barre, c'est jusqu'au 24 février au Théâtre de la Madeleine à Paris, mais c'est totalement complet.
Merci Sébastien Legénie.